Le saviez-vous? Archimax, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. 4 newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine dans votre messagerie.
Archimag, le magazine des professionnels de l'information.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence Jost, je suis la rédactrice en chef du magazine Archimag et je suis ravie d'entamer avec vous notre nouvelle série de podcasts consacrée à Documation. Comme vous le savez peut-être, le salon fête ses 30 ans cette année et ouvre ses portes cet après-midi jusqu'au 21 mars, porte de Versailles, pour une 30e édition qui s'annonce riche en surprises et en nouveautés sur les stands des éditeurs, mais aussi tout au long du cycle de conférences organisées en partenariat avec Archimag. Des conférences que nous avons élaborées selon les tendances du moment et pour aider les professionnels à répondre à leurs problématiques du quotidien. Les différents épisodes de cette série de podcasts vous permettront de préparer votre visite sur Documation, de vous imprégner des tendances du moment, de vous tenir informé des nouveautés présentées dans les allées du salon, et d'entendre des experts et des professionnels s'exprimer sur l'actualité de vos domaines. Dans ce premier volet de notre série, et avant de plonger dans les épisodes suivants au cœur de l'actualité du salon, je vous propose justement d'explorer ensemble les grandes tendances thématiques et sectorielles de 2024. Alors il est assez amusant de se rappeler dans quel contexte nous avions lancé ce même podcast l'an dernier. Cela faisait alors quelques mois seulement que l'entreprise californienne OpenAI avait lancé son fameux ChatGPT qu'on ne présente plus. Bien sûr, je ne vais pas vous faire un résumé de l'année qui vient de s'écouler, mais je me souviens que l'an dernier, à la même époque, on disait alors que ChatGPT préfigurait ce que certains qualifiaient de deuxième révolution d'Internet. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, les développeurs se sont retroussés les manches et de multiples outils d'IA et d'IA générative se sont développés, tout comme de multiples cas d'usage sont apparus. Bien sûr, ça fait bien longtemps déjà que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un ensemble de technologies qui permettent aux machines d'apprendre et qui se concentrent sur des tâches spécifiques comme la classification, la prédiction ou la résolution de problèmes, s'est infiltrée dans nos outils et dans notre quotidien. Notre GPS, le moteur de recherche qu'on interroge, l'assistant vocal de notre smartphone, ou même la façon dont notre banque a analysé notre dossier pour nous accorder ou non un crédit immobilier, tout ça, ça fait déjà des années que ça fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. L'IA générative, celle dont tout le monde parle depuis un an, est une certaine catégorie d'IA qui est capable de générer de nouvelles données, de nouveaux contenus, de nouvelles idées sous la forme de texte, d'images ou encore de sons ou de musique qui ressemblent à ceux créés par nous, les humains. L'an dernier, ce n'est rien de moins qu'une deuxième révolution d'Internet qu'on annonçait. Un an plus tard, de nombreux experts vont plus loin. Selon eux, avec l'IA générative, c'est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle que nous sommes. Dans le sens où, en plus d'apporter des avancées majeures en matière de technologie et d'innovation, elle présente de nouveaux défis en matière d'économie, de politique, de travail, de société, de santé, d'éducation, de défense, d'environnement et j'en passe. Je ne sais pas si vous connaissez Joëlle Barral. Joëlle Barral, c'est la directrice de la recherche en IA de Google DeepMind. Google DeepMind, c'est une division de Google justement dédiée à l'IA. Eh bien, lors d'un colloque sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu au Sénat début décembre, Joëlle Barral a déclaré « C'est une révolution encore plus profonde que la révolution industrielle et la révolution numérique ». Ça promet. Rappelons aussi que cela fait seulement quelques jours que le Parlement européen a adopté la loi de régulation de l'intelligence artificielle, ou AI Act, avec 523 voix pour et 46 voix contre. L'AI Act défend plusieurs ambitions. En plus de s'intéresser à l'harmonisation des règles en termes de mise sur le marché et d'utilisation, la loi servira aussi de garde-fou en matière d'exigences éthiques et de sécurité. La question de l'innovation n'est pas en reste puisque l'AI Act devrait permettre de soutenir les PME et les jeunes pousses françaises. Le texte doit encore être définitivement validé par le Conseil de l'Europe en avril et devrait être publié dans le journal officiel de l'UE entre mai et juin 2024. Les entreprises auront 24 mois pour appliquer les nouvelles directives et dispositions. À elle seule, l'IA, et en particulier l'IA générative, est donc la plus grande tendance de cette année 2024. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en raison des multiples terrains d'application et d'usage qu'elle permet, elle s'infiltre en réalité dans plein de secteurs différents et stimule aussi parallèlement d'autres tendances. C'est ce que nous verrons au cours de ce podcast. Mais avant de les explorer toutes, concentrons-nous déjà sur l'IA pour voir dans quelle mesure elle sera aussi incontournable en 2024. La première des choses à considérer, ce sont les investissements prévus par les entreprises. En septembre 2023, l'enquête Pulse sur l'IA de l'Institut Forrester révélait que plus de la moitié des entreprises, 62%, expérimentent avec l'IA générative ou développent leur utilisation de cette technologie. Près d'une sur deux, 45%, augmentent de plus de 5% ses investissements et ses budgets technologiques pour l'IA. Car beaucoup l'ont compris, la démocratisation de l'accès à l'IA générative au sein des entreprises permet d'automatiser un grand nombre de tâches, de stimuler la productivité, de réduire les coûts et d'offrir de nouvelles opportunités de croissance. Je fais une petite parenthèse. Malgré un contexte international et économique plutôt morose, le numérique reste en France un marché dynamique et porteur. Numéum, qui est le premier syndicat professionnel des entreprises du numérique en France, évaluait en décembre la taille du marché du numérique à 66,2 milliards d'euros, avec une croissance de 6,5% pour 2023. Et Numéum prévoit une croissance de ce marché de 5,8% pour 2024, ce qui le porterait à 70 milliards d'euros. C'est dans ce contexte qu'en France, l'essor de l'IA générative suscite de l'enthousiasme pour la grande majorité des acteurs du numérique. 66% d'entre eux estiment que l'IA est une source d'opportunités d'amélioration et de business. 73% des éditeurs et plateformes affirment avoir déjà mis en place ou prévoient d'utiliser l'IA générative pour leurs offres et solutions. Comme je le disais, les cas d'usage de l'IA générative sont tellement variés que tous les secteurs pourraient en bénéficier demain. On voit d'ailleurs se développer des LLM, les fameux grands modèles de langage, c'est-à-dire la base algorithmique des chatbots comme Bard ou ChatGPT, un peu partout. Dans la santé, pour limiter les risques d'erreurs de diagnostic, dans le secteur financier, pour analyser les données financières, pour générer des rapports, des prévisions ou pour délivrer des informations boursières en temps réel, et même dans le secteur de l'éducation pour développer des expériences d'apprentissage personnalisées. Le secteur informatique est d'ailleurs loin d'être le dernier à profiter des apports des technologies d'IA générative et du machine learning. Gartner prévoit même que d'ici à 2028, 75% des ingénieurs de logiciels d'entreprise utiliseront des assistants de codage IA, alors qu'ils n'étaient que 10% à le faire début 2023. De son côté, Forrester affirme que l'IA générative est prête à augmenter la productivité dans toutes les fonctions informatiques et pas seulement chez les développeurs. Il prédit que les investissements des chefs d'entreprise, de la technologie et du marketing dans l'IA générative au cours de l'année à venir favorisera l'innovation centrée sur le client et créera une plus grande valeur ajoutée pour l'entreprise. Mais pour faire de l'IA un vecteur de croissance, il y a à mes yeux un très gros enjeu à considérer, c'est celui des compétences. Il est probable que l'acquisition de nouveaux talents aux compétences émergentes puisse s'avérer difficile. Cela pourrait entraîner la création de partenariats inédits pour combler l'écart ou le manque de compétences en matière d'IA, ou même l'arrivée de nouveaux acteurs qui rebattront les cartes du marché actuel avec des solutions révolutionnaires qui réinventent totalement les outils professionnels actuels. Un autre enjeu à surveiller de près en 2024 concernant l'IA, c'est la gouvernance des modèles d'IA, à savoir le contrôle de leur fiabilité, de leur équité, de leur robustesse, de leur transparence et de la protection des données. Vu le risque financier que comporte l'AI Act pour les entreprises qui ne seraient pas en conformité avec le texte, Forrester prédit que 50% des grandes entreprises européennes investiront de manière proactive dans la conformité en matière d'IA au cours des 12 prochains mois. Par exemple, je parlais tout à l'heure des développeurs qui adoptent des assistants IA qu'on appelle des Turing Bots pour générer du code et stimuler leur productivité. Eh bien, Forrester prévoit qu'au moins 3 violations de données seront publiquement imputées à des codes générés par l'IA non sécurisés en 2024. Ce qui doit absolument poser question, c'est la sécurité du code généré. Et des garde-fous doivent donc être absolument mis en place. Cela me sert de transition pour passer à la tendance qui marquera évidemment 2024, comme les années précédentes, c'est-à-dire la cybersécurité. C'est évidemment loin d'être un petit sujet, car l'année 2023 a été un tournant dans la compréhension et la réponse aux cybermenaces, avec des évolutions notables en termes de fréquence et de sophistication des attaques. Rien qu'en France, Cybercover, qui est un courtier français spécialisé sur les risques cyber pour PME et ETI, signale une hausse de 400% des cyberattaques entre 2020 et fin 2023. 2024 n'est pas en reste. Signalons par exemple les cyberattaques qui ont touché plusieurs services ministériels en ligne le dimanche 10 mars 2024. Ces attaques informatiques, qui ont visé notamment les ministères de la Culture, de la Santé, des Affaires Sociales, de l'Économie et des Finances, de la Transition écologique et les services du Premier ministre, ont été opérées selon la méthode du déni de service, qui consiste à submerger de requêtes un site pour le faire tomber. La section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans la foulée, le mercredi 13 mars, c'est France Travail qui annonçait avoir été victime d'une cyberattaque. Une attaque informatique qui impacterait potentiellement les données personnelles de 43 millions de personnes, soit les noms, prénoms, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, mais aussi les adresses mail et postales et les numéros de téléphone des bénéficiaires inscrits ou précédemment inscrits au cours des 20 dernières années. Au-delà de ces exemples très médiatisés, les données de l'ANSSI mettent en lumière une répartition préoccupante des cibles de ces attaques. Les entreprises étant les plus touchées, 69%, suivies par les collectivités territoriales, 20%, et les établissements de santé, 11%. Cette répartition souligne non seulement la vulnérabilité des infrastructures essentielles, mais aussi la valeur croissante des données de santé, devenue une cible privilégiée pour les cybercriminels. Parallèlement, Deloitte indique que 30% des malwares en circulation en 2023 provenaient de campagnes de phishing, ce qui illustre la persévérance et l'ingéniosité des attaquants dans l'exploitation de la confiance humaine pour infiltrer les réseaux. Ces chiffres démontrent clairement la nécessité pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille ou leur secteur, de prioriser la cybersécurité et d'adopter des stratégies proactives pour protéger leurs réseaux, leurs données et leurs infrastructures essentielles. D'ailleurs, qu'elles en aient pleinement conscience ou pas encore, il faut reconnaître qu'elles auront de moins en moins le choix, car 2024 va être marqué par des directives liées à la cybersécurité de plus en plus contraignantes pour les entreprises. D'abord, la nouvelle directive NIS 2, auquel Archimag a consacré un long article cet été pour aider les entreprises et les administrations françaises à s'y préparer, sera transposée en droit français au plus tard au deuxième semestre 2024. Rappelons que NIS 2 élargit considérablement le nombre de secteurs d'activité qui étaient concernés par NIS 1 et impactera des milliers d'entités supplémentaires, depuis la PME de plus de 50 salariés qui réalise plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires aux grandes entreprises du CAC 40. Elle intègre notamment les fournisseurs de services numériques, les entreprises de sous-traitance et, dans certains cas, les collectivités territoriales. Les entreprises devront effectuer des audits de sécurité approfondis et mettre en œuvre des mesures robustes pour se conformer à cette réglementation, ce qui pourrait inclure la mise à niveau des infrastructures existantes et la formation du personnel. Évoquons aussi le Cyber Resilience Act qui, même si on ne connaît pas encore son calendrier de mise en œuvre, va imposer des obligations de sécurité, notamment pour plus de security by design aux fournisseurs IT, mais aussi aux importateurs et distributeurs de produits connectés. Et enfin DORA, le Digital Operational Resilience Act, qui sera applicable dès janvier 2025 et qui aura pour mission de renforcer la résilience opérationnelle IT de près de 22 000 organisations du secteur financier, des banques et des assurances notamment. Je vous disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle était une tendance tellement profonde en 2024 qu'elle s'infiltrerait même dans les autres tendances relevées. L'éditeur spécialisé dans la gestion des certificats de sécurité Venafi n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, tous les ingrédients sont réunis pour que 2024 soit l'année des failles de sécurité et celle des attaques par empoisonnement de l'IA. Selon lui, la raison vient d'abord de l'essor du mouvement 1000 fois. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il laisse à penser que les développeurs deviendront 1000 fois plus productifs grâce à l'IA, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, innove et expérimente beaucoup plus, mais qui génère aussi de nouveaux risques tout en rendant la sécurisation des environnements plus complexe et urgente. Parallèlement, si les développeurs sont 1000 fois plus productifs grâce à l'IA, les hackers le sont aussi. Les experts prédisent que les acteurs malveillants utiliseront l'IA pour personnaliser les attaques, en ciblant les utilisateurs avec des stratégies plus sophistiquées, basées sur la collecte et l'analyse de grandes quantités de données. Concernant l'empoisonnement de l'IA, Venafi prédit que les infrastructures logicielles seront la cible de nouvelles attaques en 2024. Selon lui, les hackers cibleront avant tout les pipelines d'entrée et de sortie afin de manipuler les données, ce qui leur permettra d'empoisonner les modèles d'IA et les résultats qu'ils produisent. Par conséquent, toutes les données transmises à l'IA doivent être sécurisées. Il faut identifier leur provenance et les sécuriser à l'aide de technologies telles que la signature de code. Bon, je reconnais que le tableau peut sembler dramatique, mais tout n'est pas si noir. Heureusement, de nombreux experts prédisent aussi que l'IA pourrait parallèlement profiter à la cybersécurité, puisque des systèmes de défense basés sur l'IA capables de détecter des modèles anormaux et de réagir en temps réel aux menaces vont se développer aussi. L'intégration de l'IA dans les protocoles de sécurité permet une surveillance continue et une réponse rapide, transformant la manière dont on peut se défendre contre les cyberattaques. Concernant la cybersécurité, je voulais aussi signaler les chiffres d'une autre étude, ceux du rapport Zero Trust de Beyond Trust, qui est spécialiste de la gestion des accès privilégiés. Ce rapport souligne une autre dimension préoccupante, celle des identités et des accès. 81% des entreprises ont signalé au moins 2 incidents liés aux identités au cours des 18 derniers mois. Cela me permet de faire une petite transition assez facile avec la tendance suivante que nous avons identifiée chez Archimag, qui est celle de l'identité numérique. En 2024, cette thématique est au centre des préoccupations, non seulement en termes de commodité, mais aussi de sécurité et de confidentialité. C'est peu dire que l'Europe et la France positionnent l'identité numérique au cœur de leur stratégie de développement. L'actualité est d'ailleurs tellement riche en la matière que nous avons décidé de consacrer un dossier prospectif sur ce sujet dans le numéro de février d'Archimag. Car le secteur de l'identité numérique est en pleine effervescence et dessine un futur où la sécurité et la facilité d'utilisation seront les maîtres mots. Rappelons que la révision du règlement EIDAS est désormais bien engagée, puisque sa modification a été votée le 29 février dernier par le Parlement européen. Le Parlement a ainsi donné son feu vert final à EIDAS version 2, qui devra désormais être officiellement approuvé par le Conseil des ministres de l'Union européenne pour entrer en vigueur. Cette version 2 élargit considérablement le champ d'application du règlement initial. Cette nouvelle mouture a en effet vocation à créer un portefeuille d'identité numérique qui permettra aux citoyens européens, sur la base du volontariat, de s'identifier en ligne et hors ligne et de partager leurs attributs avec des tiers et de signer électroniquement des documents. Ce portefeuille se présentera sous la forme d'une plateforme dédiée au stockage et à la gestion des documents d'identité et d'autres documents personnels. Le futur portefeuille sera doté d'un tableau de bord de la vie privée qui donnera aux utilisateurs un contrôle sur leurs données. Mieux, ils pourront demander leur suppression, comme le prévoit le RGPD. Le droit d'utiliser un pseudonyme est par ailleurs consacré dans la législation. Si l'utilisation du portefeuille européen d'identité numérique reste une option pour les citoyens, il constitue en revanche une obligation pour les États membres qui devront le mettre à disposition des citoyens et des entreprises au sein de l'Union européenne. Lorsque ce portefeuille verra le jour, il ouvrira la voie à de très nombreuses possibilités pratiques aux usagers. Ouverture de comptes bancaires, paiement en ligne, ordonnance médicale, certificat professionnel, billet de voyage. Avant même d'être disponible sur les téléphones des citoyens européens, ce portefeuille fait depuis plusieurs mois l'objet de tests au sein de 4 projets pilotes impliquant plus de 250 entreprises privées et autorités publiques dans 25 États membres de l'UE, auxquels se sont jointes la Norvège, l'Islande et l'Ukraine. Au-delà de l'expérience utilisateur, EIDAS 2 pourrait également recomposer les modèles des acteurs de la confiance numérique, puisque les composants logiciels des applications seront essentiellement en code ouvert. Mais EIDAS 2 ne s'arrête pas là. Cette nouvelle mouture prévoit également l'ajout de 4 nouveaux services de confiance pouvant être qualifiés. La délivrance d'attestations électroniques d'attributs, la gestion de dispositifs de création de signatures et de cachets électroniques qualifiés, l'archivage électronique et les registres électroniques. Autre nouveauté, EIDAS version 2 inclut les prestataires de services de confiance qualifiés, PSCQ, qui sont tenus de répondre à des normes de sécurité et feront régulièrement l'objet de contrôle. En France, rappelons que l'Assemblée nationale a adopté un amendement en octobre dernier fixant à l'État l'objectif que 100% des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite d'ici 2027. Dans la foulée, l'expérimentation de cartes d'identité numérique dématérialisées sur smartphone a été lancée par le gouvernement en novembre dernier dans 3 départements français. Les habitants des Hauts-de-Seine, de l'Eure-et-Loire et du Rhône sont les premiers à pouvoir attester de leur identité via l'application France Identité. La ICNI a aussi vocation à lutter contre l'usurpation d'identité et à remplacer les identifiants ainsi que les mots de passe. Autre atout, elle permet de fournir un justificatif d'identité à usage unique, ce qui signifie la fin des fameuses cannes de cartes d'identité. Ces 2 exemples témoignent du mouvement global d'une recherche de méthodes d'authentification plus sûres et plus simples de la part des particuliers comme des entreprises pour faire face à la multiplication des violations de données impliquant des mots de passe volés ou faibles. Les innovations technologiques en matière d'authentification et de vérification de l'identité à distance font d'ailleurs de grands progrès, notamment en ce qui concerne la reconnaissance faciale et la biométrie, l'IA et le deep learning et la blockchain. On parle même de nouveaux systèmes d'authentification qui analysent les modèles de comportement des utilisateurs, comme la manière dont ils tapent au clavier, leur façon de se déplacer ou même leur manière d'interagir avec les appareils. Ces systèmes offrent une couche supplémentaire de sécurité en continuant à surveiller l'utilisateur après l'initialisation de la session, permettant de détecter et de réagir rapidement en cas de comportement suspect. Ces approches amélioreront non seulement la sécurité, mais aussi l'expérience utilisateur, en éliminant la nécessité de mémoriser et de saisir régulièrement des mots de passe complexes. Elles faciliteront également l'accès sécurisé pour les collaborateurs qui travaillent à distance, qui sont de plus en plus nombreux. Tellement nombreux qu'évoquer le travail à distance m'offre une transition assez facile vers une tendance que je tenais aussi à évoquer aujourd'hui, celle du travail hybride. En effet, Forrester prévoit que l'Europe dépassera les États-Unis en matière de travail flexible en 2024, avec 40% des Européens en moyenne travaillant à distance au moins une partie du temps. En France, selon les statistiques de l'INSEE et diverses études sectorielles, près de la moitié des entreprises françaises, 47%, ont déjà intégré le télétravail, même de manière partielle en 2023, ce qui marque une adoption massive comparée à la période pré-Covid. Un exemple parmi d'autres de cette tendance, le média Culture RH signale l'émergence d'un nouveau profil dans les effectifs de management de certaines grandes entreprises comme Meta, celui de Chief Hybrid Officer, dont le rôle est d'harmoniser le travail en présentiel et à distance. Par ailleurs, les tensions sur le marché du travail, notamment dans le secteur du numérique, font du travail hybride un sujet crucial lors des recrutements. Pour près de 3 candidats sur 4, la flexibilité serait même devenue un critère clé dans le choix d'un emploi. On peut donc prédire que les entreprises qui ont abandonné le télétravail après le Covid pourraient être forcées d'y revenir. Cette tendance est renforcée par de nombreuses études publiées ces derniers mois qui confirment encore et toujours les avantages du travail hybride qui profite autant aux collaborateurs qu'aux organisations. On note une augmentation du bien-être au travail, une amélioration de leur santé et donc une réduction de l'absentéisme, avec une meilleure attractivité pour l'entreprise, une augmentation de la fidélisation des salariés et une meilleure productivité qui se répercute directement sur les résultats des organisations. Culture RH, toujours, souligne que 81% des directeurs financiers considèrent le travail hybride comme un moyen de réduire les coûts. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de cette tendance? Eh bien parce que dans son état des lieux du travail hybride 2023, l'entreprise O-Labs, spécialiste des outils technologiques collaboratifs, révèle que 76% des travailleurs déclarent qu'une technologie efficace est importante pour réaliser leur travail en situation de travail hybride. Ce n'est une surprise pour personne, et c'est pas forcément une tendance émergente, mais les outils collaboratifs ont donc plus que jamais la cote dans les organisations, et cela se poursuivra en 2024. On parle bien sûr des outils de visioconférence, des plateformes de gestion de projets, des outils de gestion et de partage de documents, des digital workplaces et bien sûr des solutions de sécurité informatique. Et comme le sujet de l'IA n'est jamais loin, je m'autorise une petite parenthèse, il est d'autant plus crucial pour les entreprises de proposer des solutions logicielles qui répondent efficacement aux besoins de leurs collaborateurs, tout en étant ergonomiques, conviviales, qui ressemblent aux outils qu'ils ont le plus l'habitude d'utiliser et qui respectent les normes de sécurité. Vous connaissez tous le Shadow IT, ce phénomène qui se produit quand les collaborateurs utilisent des outils, des applications ou des services informatiques sans l'approbation ou la connaissance de leur département informatique ou de leur entreprise. Ces outils peuvent inclure des applis de stockage dans le cloud, des services de messagerie, des outils de collaboration. Eh bien, ce sera pareil pour l'IA. Forrester prédit qu'en 2024, 60% des travailleurs utiliseront leur propre IA pour effectuer leur travail et leurs tâches. Forrester appelle ça l'IA clandestine et prédit que les entreprises qui s'efforcent pourtant de gérer les questions de réglementation, de confidentialité et de sécurité auront beaucoup de mal à y faire face. C'est une dimension importante à prendre en compte. Je ferme cette parenthèse pour en revenir au travail hybride qui me permet de faire la transition avec la tendance suivante. Si le travail hybride est une tendance que j'ai tenu à signaler cette année, c'est aussi parce qu'il permet aux entreprises de s'inscrire dans une démarche de sobriété énergétique qui est aujourd'hui au cœur des politiques RSE. En effet, en réduisant les déplacements des salariés, le télétravail contribue à diminuer l'empreinte carbone des organisations et participe à l'effort collectif de préservation de l'environnement. Une étude de l'ADEME révèle qu'un seul jour de télétravail hebdomadaire représente au bout d'un an une économie de 271 kg équivalent de CO2. J'en viens donc à ma cinquième tendance, la digitalisation responsable. J'ai envie de commencer cette partie en citant Adeline Nazarenko, qui n'est autre que la directrice de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions du CNRS. Face aux enjeux environnementaux, le numérique fait partie à la fois de la solution et du problème. Le CNRS en est à ce point convaincu que la thématique majeure qu'il a choisi de mettre en avant en 2023 et sur laquelle il a énormément communiqué tout au long de l'année était les sciences informatiques éco-responsables. Avec le temps, les rapports scientifiques qui succèdent et les articles dans la presse, rares sont ceux qui ignorent encore les impacts du numérique sur la planète. Ou alors, c'est qu'ils ne veulent vraiment pas les voir. On ne répétera jamais assez, aujourd'hui, selon les sources, le numérique est responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et de 2,5% de l'empreinte carbone nationale. Mais les prévisions pour le futur, actualisées en 2023, sont toujours plus inquiétantes. Une nouvelle alerte a été lancée par l'ADEME et l'ARCEP dans une évaluation prospective de l'impact environnemental du numérique en 2030 et 2050. Si rien n'est fait pour réduire l'empreinte environnementale du numérique et si les usages continuent de progresser au rythme actuel, le trafic de données pourrait être multiplié par 6 en 2030 et le nombre d'équipements serait supérieur de près de 65% par rapport à 2020. Il en résulterait, entre 2020 et 2030, une augmentation de 45% de l'empreinte carbone du numérique en France et une hausse de 5% de la consommation électrique finale en phase d'usage. Sans action fondamentale, cette étude affirme que l'empreinte carbone du numérique pourrait même tripler entre 2020 et 2050. Heureusement, elle démontre aussi que la combinaison de mesures de sobriété et d'éco-conception permettrait de réduire considérablement cet impact. Mais alors, un numérique responsable, qu'est-ce que c'est ? Un numérique plus responsable implique de prendre conscience des impacts environnementaux et sociaux directs, indirects et systémiques des activités numériques. C'est aussi un numérique plus éthique, qui ne néglige pas les enjeux de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ou encore ceux de l'inclusion ou de la diversité. C'est un sujet qui doit s'inscrire dans une démarche globale qui prend en compte l'évolution de la société et l'adaptation au changement climatique en plus de la simple réduction des impacts négatifs du numérique sur l'environnement. Selon les experts, le numérique pourrait même contribuer à l'engagement de la France en faveur du climat, en réduisant son empreinte négative là où elle est significative, et en contribuant à la réduction de l'impact des autres secteurs là où il est utile. Le numérique responsable n'est donc pas synonyme de décroissance, bien au contraire. Le numérique responsable figurait même en tête des priorités fixées par Véronique Turner, la nouvelle présidente de Numéum, pour les 3 prochaines années. Dans l'entretien qu'elle a accordé à Archimag en juillet dernier, quelques semaines après son élection, Véronique Turner affirmait soutenir en priorité le développement d'un écosystème numérique pour un impact positif, économique, social, sociétal et environnemental à l'échelle française et européenne. Avec la loi énergie-climat de 2019, la France s'est engagée à baisser de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à celles de 1990 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Depuis, les dispositifs réglementaires et législatifs français se succèdent pour soutenir cet objectif. Citons notamment la loi AGEC du 10 février 2020, la circulaire du 25 février 2020 dans laquelle l'État s'est engagé pour des services publics éco-responsables, ou encore la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, dite la loi RIN. Ces textes, qui visent à faire converger les transitions numériques et écologiques, impliquent toujours davantage les administrations, les collectivités, les établissements publics, les acteurs du numérique et plus largement les entreprises comme les citoyens. S'engager dans une démarche de digitalisation responsable n'est plus qu'un simple enjeu environnemental ou social. Il est de fait devenu un enjeu réglementaire et commercial. Ceux qui répondent à des appels d'offres le savent déjà, tout comme ceux qui surveillent les attentes de leurs clients, qui sont de plus en plus nombreux à s'engager dans une démarche RSE. D'ailleurs, à ce sujet, Gartner prévoit que d'ici 2027, 25% des DSI verront leur rémunération indexée sur leur impact technologique durable. Cette tendance est selon nous tellement importante pour l'année qui vient que nous avons décidé de lui consacrer un guide pratique qui a été publié au mois de février. Digitalisation responsable, la marche à suivre. Je vous le conseille vivement. Vous verrez, ce guide explore tous les leviers exploitables dans votre organisation, auprès de vos usagers, de vos clients ou de vos partenaires. Il va plus loin que de simples bonnes pratiques. Il est adapté aux problématiques de nos domaines et comporte de véritables méthodes et des retours d'expérience pour les chefs de projet, les DSI, les décideurs et plus largement pour tous les professionnels de l'information qui souhaitent s'engager dans des projets vertueux et œuvrer concrètement en faveur de la digitalisation responsable. Alors, j'ai là aussi préparé une petite transition. Savez-vous qu'à l'échelle mondiale, les data centers sont à l'origine de 2% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire presque autant que le transport aérien ? En France, la part des data centers dans l'empreinte carbone du numérique s'élève à 14%. Certains experts pensent quand même qu'abandonner un serveur local, qui est généralement sous-exploité et qui contient des données inutiles ou obsolètes, pour se tourner vers un fournisseur de cloud durable, permettrait de réduire ses émissions carbone d'au moins 30%. Alors, vous l'aurez compris, nous allons maintenant aborder le sujet du cloud. Alors, je ne vais pas vous parler maintenant des efforts de durabilité des fournisseurs du cloud. En réalité, ça fait déjà plusieurs années que l'empreinte carbone des hyperscalers constitue l'un des principaux critères dans les décisions d'achat de cloud. Et il faut reconnaître que nombre d'entre eux ont investi des efforts considérables pour construire de nouveaux data centers alimentés par des énergies vertes, tout en apportant des modifications à leurs centres de données existants pour réduire autant que possible leurs émissions. Ils n'auront d'ailleurs pas vraiment le choix, puisque l'Union européenne souhaite que les data centers soient totalement neutres en carbone d'ici 2030. Néanmoins, compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie et de la tendance à la diminution des émissions de carbone, certains experts prédisent que les entreprises pourraient, en 2024, challenger leurs fournisseurs et envisager des options de stockage plus rentables et plus durables, avec en ligne de mire une meilleure maîtrise de leurs coûts, ce que compliquent les grilles tarifaires volatiles du cloud, et la réduction de l'impact carbone de leur stockage, tout en maintenant un service de haute qualité. Autre tendance concernant le cloud, cette fois-ci identifiée par Gartner, l'essor des plateformes cloud industrielles, ou ICP pour Industry Cloud Platforms. Si Gartner a identifié cette tendance, c'est parce que des organisations de nombreux secteurs d'activité constatent depuis quelques années que les plateformes cloud généralistes ne sont pas toujours en mesure de répondre aux besoins spécifiques de leur secteur d'activité, tels que la santé, la finance, la logistique ou encore l'énergie. Mais alors, que proposent les plateformes cloud industrielles ? Eh bien d'abord, elles offrent bien sûr une infrastructure de cloud robuste et évolutive, mais aussi des fonctionnalités et des services dédiés aux entreprises de certains secteurs. Il peut s'agir d'outils d'analyse de données, de plateformes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de solutions de sécurité spécifiques ou encore d'applications métiers personnalisées. Selon l'Institut Gartner, près de 40% des entreprises ont déjà envisagé l'adoption d'une plateforme cloud industrielle et 15% d'entre elles sont déjà engagées dans un projet pilote. Environ 15% supplémentaires envisagent même un déploiement d'ici 2026. Gartner prévoit qu'à l'horizon 2027, les entreprises utiliseront les plateformes cloud industrielles pour accélérer plus de 50% de leurs initiatives commerciales critiques. En 2021, ce chiffre était inférieur à 10%. Du cloud au data, il n'y a qu'un pas. Et c'est presque sans transition que j'enchaîne avec cette tendance de fond, au croisement des grands enjeux que sont le cloud, la gouvernance et l'intelligence artificielle. Si l'IA a bousculé le marché en 2023, c'est véritablement la donnée qui, depuis des années, voire des décennies, sert de stimulant à l'évolution des systèmes d'information des entreprises. Et d'ailleurs, pour être véritablement intelligente, les applications d'IA ont besoin d'accéder à des données toujours plus nombreuses, toujours plus pertinentes et toujours plus fiables. Pour les entreprises en 2024, l'un des grands défis en matière de data reste l'exploitation de leurs données non structurées, qui ne cesse de croître de façon exponentielle au point que certains analystes les évaluent à 90% des données d'entreprise. Une étude révèle que 61% des responsables informatiques déclarent que la gestion de ce type de données constitue un problème pour leur organisation et 24% n'incluent même pas ces informations dans leur shortlist de données et d'applications analytiques. C'est pourquoi, comme en 2023, les tendances de fond en matière d'architecture et d'exploitation de données d'entreprise restent, encore pour 2024, le Data Fabric et le Data Mesh. Avec elles, le système d'information évolue vers un système complexe, intelligent, plus autonome et capable d'analyser et d'exploiter de vastes ensembles de données pour une prise de décision stratégique et opérationnelle. Bien sûr, les deux architectures répondent à des logiques différentes. Pour simplifier, le data mesh, qui suscite le plus d'engouement actuellement de la part des entreprises, repose sur un maillage des données et sur la création d'interactions entre différents domaines de données. De son côté, le Data Fabric est plutôt fondé sur un environnement composable de différentes solutions qui analysent et enrichissent les données et les métadonnées en continu. Elles servent pourtant toutes les deux un même objectif d'exploitation optimale des data et peuvent même être envisagées de façon complémentaire. Je tenais à finir sur une dernière tendance, celle de la gouvernance de l'information numérique. Vous allez me dire que je n'ai prévu aucune transition pour cette partie, mais ne croyez pas ça, puisque les entreprises sont de plus en plus nombreuses, passant de 76% à plus de 86% à considérer que les data, qui étaient l'objet de notre tendance précédente, ont totalement leur place dans la gouvernance de l'information. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la grande enquête dédiée à la gouvernance de l'information numérique que le cabinet Cerda Conseil réalise chaque année depuis maintenant 13 ans, et qui a été publiée au début du mois de mars. Cette enquête est intéressante car elle fournit de nombreux indicateurs sur les tendances de notre secteur, notamment sur les projets qui vont dominer en 2024. Par exemple, c'est la première fois qu'une question a été posée aux organisations sur la place de l'IA dans la gouvernance de l'information. Et les réponses sont intéressantes. Les entreprises ont répondu « oui » à 8,9%, « oui partiellement » à 17,9%, non mais prévu à 21,6% et non à 35%. Si 18,4% ne savent pas encore se positionner, 27% des répondants considèrent donc que l'IA a déjà toute sa place dans la gouvernance de l'information de leur organisation, et 21,6% ont répondu que ce n'était pas encore le cas mais prévu. Ce qui porte à 48,6%, soit près d'une organisation sur deux, qui considère que l'IA doit être intégrée à la gouvernance de l'info. Comme je vous le disais, les résultats de cette enquête permettent d'identifier les projets qui domineront en 2024, c'est-à-dire les projets identifiés comme déjà prévus ou engagés pour cette année. Je vous présente ici les sujets dont la part de projet est la plus importante. Concernant les flux entrants, ce sont les projets de numérisation, de capture et d'OCR qui domineront, et qui sont même en augmentation depuis l'an dernier. Ils étaient à 41,7% en 2023 et passent à 44,5% en 2024. Sur les flux circulants, la signature électronique a perdu sa place de projet dominant au profit des projets de RPA et d'automatisation des flux et workflows, qui passent de 49% en 2023 à 54% pour 2024, soit 5 points de plus. Enfin, en ce qui concerne les flux de gestion, les deux projets porteurs pour 2024 sont les projets d'archivage électronique, qui se stabilisent à hauteur de 54%, et les projets de GED ECM augmenté d'IA, qui passent à 44% pour 2024 contre 40% en 2023. Voilà, nous avons fait le tour des grandes tendances thématiques et sectorielles de l'année 2024 et on peut dire que vous êtes fin prêt pour votre visite sur Documation. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de notre série avec les premiers temps forts recueillis sur le salon par les journalistes de la rédaction d'Archimag. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts pour ne manquer aucun nouvel épisode. À bientôt !